Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Hervé Diwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Hervé Schneider. Bonjour.
Bonjour Radio Diwa.
Hervé Schneider, tu es créateur et organisateur de Vercors et Merveilles et tu es ici pour nous présenter cette 4e édition qui va avoir lieu du 1er au 10 mai. Ça se passera à Saint-Martin en Vercors, à la Grange Ouverte. Et donc, avant tout, on peut peut-être présenter ce qu'est Vercors et Merveilles.
Oui, absolument. Je suis là pour ça, pour vous présenter un peu tout ça. Donc, Vercors et Merveilles, c'est un festival qui a démarré sur un peu une idée entre amis photographes d'exposer ensemble. C'était la genèse de ce projet. Finalement, nous y sommes jamais arrivés depuis à exposer ensemble avec ces mêmes photographes qui étaient prévus au début. Mais comme l'organisation, j'avais déjà démarré à organiser cette rencontre et vu l'avancement, j'avais vraiment pas envie de faire marche arrière. Et donc, c'est parti un peu comme ça, sur une espèce de petite boutade sur un bord de table. Et finalement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui prend vraiment de l'ampleur. Donc, festival photo, tout à l'origine. Mais aujourd'hui, c'est bien plus que ça, parce que là, j'aime beaucoup aussi associer d'autres arts à la photo, notamment la 3D, et puis tout ce dont on va parler un peu plus tard. Et aujourd'hui, donc, c'est effectivement devenu un gros événement sur 10 jours, et qui en plus de l'exposition, a surtout comme but la sensibilisation et le partage. Sensibilisation et partage par rapport à ce qu'on a juste autour de chez nous, hein, le Vercors en fait, avec toute sa diversité.
Alors justement, le programme, il y aura ces expositions de photographie, il y aura également une conférence avec Sandrine Bout.
Oui.
L'ai-je bien prononcé ?
Absolument.
Sur le temps de la forêt. Et puis successivement, sur les jours suivants, alterneront sorties nature, des randonnées botaniques, et ensuite ces expositions et peut-être d'autres interventions.
Oui. Donc les Sandrine qui organisent donc 2 sorties nature comté, événement assez particulier pour adolescents et adultes. Pour essayer de plonger les gens dans un univers bien particulier, mais toujours pour sensibiliser et ouvrir les yeux un peu différemment. Les randonnées botaniques, donc ça c'est une association botanique en Vercors qui réalise ça pour là aussi initier, pour montrer ce qu'ils font, expliquer leur fonctionnement et puis m'a découvert certainement de très belles choses dans la nature aussi. Il y a très vite, lors de la 2e édition du festival, la notion d'ABC, l'Atlas de la biodiversité communale, est rentrée dans le projet.
Alors, juste, vous pouvez expliquer ABC ?
Oui, l'Atlas de la biodiversité communale, c'est un outil qui a été mis en place par le parc pour vraiment sensibiliser, avoir une participation la plus grande possible de tout un chacun sur son propre territoire, dans sa commune, autour de chez lui, pour vraiment se rendre compte, faire un espèce de listing de tout ce qu'on a autour de chez soi, pour qu'on comprenne bien les enjeux de la plus petite bête jusqu'à la plus grosse, en passant par les fleurs, les plantes, et l'importance de tout cet équilibre. Qu'il faut arriver à sauvegarder et puis à préserver. Mais avant tout, il faut voir ce qu'on a pour pouvoir sauvegarder et préserver. Donc cette notion a vraiment pris une grosse importance depuis le 2e festival, parce que j'avais eu la chance d'habiter dans une petite commune dans la vallée de Quin, donc dans le Diois, qui faisait partie de ce programme. Et il y avait une jeune service civique, Samuel Ulrich, qui a fait un travail incroyable, avec une énergie folle. Et très vite, je me suis dit qu'il fallait aussi relayer tout ce travail qui est fait et participer à ça. Donc, depuis, le parc il rentre aussi dans le projet, toujours avec des petites actions, soit des expos, qui ont eu lieu sur les précédentes éditions, soit là cette année une sortie sur la mare pédagogique qui avait été, qui avait fait partie du projet ABC du parc sur Saint-Martin-en-Vercors avec l'école. Donc ils ont créé une mare et aussi justement pour comprendre le fonctionnement d'une mare et puis pourquoi c'est important. Donc une sortie mare pédagogique avec Christelle Caton du parc et Eva Francescu, une passionnée de toutes ces petites bêtes qui vivent là-dedans. Donc c'est toujours intéressant. Ensuite, il y a des sorties naturalistes avec Romain Ribeiro, qui est bien connu, surtout Nord-Vercors, qui fait des sorties qui sont toujours très, très appréciées. Donc là, ça va être sortie nature-faune rupestre, qui est une sortie un peu délocalisée par rapport à Saint-Martin-en-Vercors, parce que aussi depuis le début, j'ai adoré le travail qui a été fait à l'hôtel Quartier Libre, au col de la machine, par une jeune équipe qui a eu un pari un peu fou de faire revivre cette auberge. Et donc pour moi, c'était un peu normal de créer un événement là-bas pour les faire connaître à l'époque. Donc Romain Ribeiro, une sortie faune rupestre au col de la machine, une sortie faune sauvage à Saint-Martin. Et il organise aussi, ça c'est nouveau cette année, le dernier dimanche, un petit atelier piège photo pour montrer un peu comment on les utilise, pourquoi on les utilise et puis ce qu'il ne faut surtout pas faire pour déranger la faune.
Il y a donc, avec ces propositions de sortie et randonnée, il y a la photographie émêlée aussi à cette proposition, ou alors c'est juste de l'observation ?
C'est plus de l'observation, essentiellement l'observation, et puis d'expliquer le travail de terrain des professionnels, que tous ces gens-là sont des gens qui vivent de leur passion, de leur métier.
Alors, on peut peut-être en citer quel type de professionnels sont impliqués dans...
Christelle Caton, elle, c'est la responsable de l'Atlas de la biodiversité pour le parc. Donc, c'est celle qui gère un peu toute cette notion, parce que c'est un énorme projet. Hein. C'est pour l'ensemble du parc, enfin, toutes les communes qui ont adhéré. Donc, je n'ai plus le nombre exact en tête, mais il y en a beaucoup. Romain Ribeiro, lui, c'est un naturaliste. Donc, il est tout le temps sur le terrain à faire du comptage, à faire du relevé, à comprendre ce qui se passe, le déplacement des animaux, la cohabitation, comment ça se passe. Matt Boot, il est photographe, entre autres. Il est également accompagnateur. Tout comme il y a une autre soirée dont je n'ai pas parlé encore, c'est la découverte du ciel étoilé. Ça, c'est Vivien Budon, un accompagnateur montagne également, et qui est passionné d'astronomie. Et là aussi, c'est une façon d'ouvrir les yeux. Et parfois, on regarde par terre pour les petites plantes, les petites fleurs, les insectes. Et puis là, ça nous permet d'avoir tout le spectre, depuis le sol jusqu'au ciel.
Juste, je revenais un peu sur ma question par rapport aux professionnels. Il y a effectivement les personnes intervenantes dans cette proposition de Vercors et Merveilles. Est-ce qu'il y a aussi des activités professionnelles liées au rural qui forgent aussi et qui mettent en branle la nature sur le Vercors?
Oui, il y a ce type d'organismes qui existent. Ils ne sont pas encore dans le festival actuellement. Mais je le disais tout à l'heure, c'est un festival qui grandit, qui commence à bien se faire connaître. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'acteurs qui viennent vers moi pour proposer des nouvelles choses pour les prochaines éditions. Donc, ce qui est super intéressant, parce que jusque-là, c'était plutôt moi qui invitais, qui cherchais du monde. Et là, depuis un an, ça s'inverse. Donc, c'est un festival qui a vocation à rester vivant et à continuer à se réinventer et pas faire quelque chose de trop statique. Donc, la biodiversité, c'est quelque chose de très, très, très vaste. C'est pas que les animaux, les petites bêtes qu'on voit autour de nous, c'est aussi justement la relation entre nous, entre l'homme, entre le vivant et le milieu dans lequel on est, entre toutes nos activités économiques, pastorales. Et donc, le terme de biodiversité, souvent, on le restreint un peu. Mais en fait, non, c'est extrêmement vaste.
L'invisibilité aussi de certains éléments de nature, hein,
absolument,
qui forgent aussi cette nature.
Absolument.
Il y a aussi cette proposition de randonnée, de sortie, mettre en éveil les sens aussi, nos sens. Il y a la vision, l'oreille, l'odorat aussi, le toucher. Ça, c'est une chose que vous avez... que vous allez peut-être proposer, d'abord pour connaître un peu mieux encore la nature, par ses diverses apparences ou réceptibilité. Est-ce que c'était, quand je vois la date, la quatrième édition, est-ce que c'est au sortir aussi du Covid qu'il y a eu cette envie peut-être de partager cette nature?
Non, là, c'était déjà quelque chose qui pour moi était en tête depuis longtemps. Donc là pour une fois, le Covid n'a pas eu d'incidence. En fait, moi je suis photographe donc depuis très longtemps, mais pendant un bon moment, la photo c'était essentiellement pour moi, pour me faire plaisir et puis pour passer des très très bons moments dans la nature. C'est vraiment, je le dis assez souvent, c'est un peu mon espace zen. C'est ce qui me permet de me recentrer et puis de bien réfléchir à ce qu'on a et puis de ralentir un peu. Donc c'était, oui, la photo a été un moment pour moi, un vecteur possible pour transmettre justement ces idées et cette sensibilisation. Et dans ce festival, c'est vraiment le fil conducteur, c'est le moteur. Donc oui, il y a la photo, donc on est quatre photographes à exposer. Avec un point commun, c'est notre façon de travailler, notre façon de respecter la nature. Parce qu'on ne va pas faire de la photo pour avoir la plus belle photo. Hein. C'est avant tout de s'immerger dans un environnement qui est à préserver, qui est hyper fragile. Donc l'objectif, c'est de déranger le moins possible. Si on ne peut pas faire la photo, ben on ne la fera pas. On la fera peut-être l'année d'après ou jamais. Mais c'est de perturber le moins possible, déranger le moins possible et s'intégrer et puis essayer de vraiment comprendre, donc d'ouvrir les yeux. La photo, hein, c'est un peu la littérature de l'œil, hein, comme certains disent. Donc ça, c'était vraiment le fil conducteur.
C'est un travail de patience aussi.
C'est beaucoup de patience, beaucoup, beaucoup de patience. Ça, c'est quelque chose qu'on aime bien partager aussi, à faire comprendre aux gens qui viennent voir les photos, on n'arrive pas avec notre appareil, on regarde et on appuie. Certaines photos, il y a une construction, c'est long, ça peut mettre des années, on a l'idée. Après, il faut que tous les éléments pour arriver à notre objectif soient réunis, que ce soit la météo, que ce soit la lumière, que ce soit la période, le fait de pouvoir être sur place. Donc c'est vraiment une leçon de patience. Et qui là aussi se détache de la consommation basique. On ne vient pas, on achète et on repart. On construit et on réfléchit et on attend et on prend beaucoup de patience, beaucoup de temps pour y arriver.
Vous enregistrez aussi des sonorités qu'on peut percevoir et vous en tirez peut-être aussi un abécédaire.
Oui, c'est un tout. Dès qu'on commence, moi j'étais assez speed pendant longtemps, un peu hyperactif. Quand on commence à se poser, il y a finalement tous les sens qui petit à petit s'ouvrent. C'est assez naturel. En fait, on est comme ça à l'origine, mais après, c'est un rythme qu'on s'impose ou qu'on nous impose, qu'importe, c'est un autre débat. Qui nous sépare, de tout ce qu'on a autour de soi. Donc oui, faire de la photo, ça oblige à un moment à se poser et tout naturellement, les sons commencent à prendre de plus en plus d'importance parce qu'on commence à les entendre et à les écouter, donc les entendre. Les odeurs, pareil, une petite odeur de sous-bois, une petite odeur après la pluie, on arrive même à sentir certains animaux avant de les voir. Quand on est dans le bon sens du fond, bien sûr. Et après une pluie, un renard, il a une odeur particulière. Donc toutes ces choses-là, ça vous enrichit et ça donne vraiment un sens global à ce qui se passe autour de nous, une fois de plus.
Cette immersion est portée par un objectif ou alors vous arrivez sur place et vous vous laissez surprendre?
Un peu des deux. Moi, j'ai plutôt travaillé, mais je travaille plutôt à l'instinct. Donc, je fais de la photo, mais dans pas mal de secteurs différents. Et jusque-là, d'une part, comme j'étais un peu actif, faire de la photo en affût, pour moi, c'était très compliqué. Parce que il m'était impossible de rester 2, 3, 4 heures installé sans bouger, sans faire de bruit. Ce n'était pas dans mon tempérament. Aujourd'hui, petit à petit, grâce à des amis photographes, il y en a deux qui seront là, qui exposeront. Ils m'aident un peu, ils me poussent, ils m'emmènent un peu vers là. Ce qu'on a eu la chance d'exposer ensemble sur il y a quelques années, et on avait, on va dire, les mêmes photos, enfin les mêmes animaux, les mêmes. Mais en fait, c'était pas la même photo. Il y avait des gros écarts, et cet écart, il venait justement parce que d'un côté, il y avait toute une préparation, tout un affût, beaucoup d'attentes. Et moi, j'étais plutôt en bibot, donc je préférais tout le temps marcher tranquillement dans la forêt. Et s'il y avait une belle opportunité, j'essayais de la saisir. Donc on en rate beaucoup parce qu'on n'a pas forcément le temps de faire le bon réglage de l'appareil vite fait. Mais c'est une autre approche de la photo. C'est un autre plaisir. Et là aussi, il y a beaucoup de photos que je n'ai pas pu faire parce que ça a été trop furtif, trop rapide, ou parce que mon réglage n'était pas assez rapide, pas assez bon. Mais c'est un autre exercice et c'est un autre. Mais les deux sont intéressants.
Il y a cette préparation du cadrage hein, aussi.
Oui. Il y a le cadrage.
Donc ça nécessite une pause.
Oui, ça oblige à s'arrêter pour réfléchir, pour regarder. Il y a quelques années, pour moi, c'était juste impossible de passer 20 minutes à côté d'une fleur, à chercher le meilleur angle pour la photographier, pour trouver le meilleur cadrage, le meilleur fond possible, et à attendre que le soleil il soit là où il faut pour la prendre. C'était impossible, carrément. Aujourd'hui, je sais le faire. Et puis quand on a la photo, quand on a le résultat, on est content de l'avoir fait.
Ça arrive de rater une photographie ?
Oui, heureusement. Heureusement, c'est aussi une remise en cause constante. On peut la rater pour plusieurs choses, parce que techniquement, on n'a pas eu le bon réglage, les bons réflexes. Et on peut la rater aussi parce que par rapport à ce qu'on voulait faire, on n'arrive pas. Mais ça peut être aussi un élément extérieur, comme la lumière, comme un nuage qui passe ou qui ne passe pas. Donc c'est c'est pas une science exacte. On peut aussi la rater parce qu'entre-temps, entre le moment où on la prend et le moment où on la visionne, on a changé d'avis et puis finalement, elle n'est pas belle. Donc c'est très très complexe ce fonctionnement-là. Mais on a aussi des photos qu'on a adorées au moment de la prise de vue. Et deux, trois mois après, on la regarde et on ne comprend pas ce qui nous plaisait là-dedans. Mais c'est avant tout une continuité de nous-mêmes. Et c'est une continuité de l'instant aussi, la photo. C'est très, très, très complexe, ces choses-là. Mais c'est avant tout très perso, une photo. Après, si les gens, si ça leur plaît, c'est la cerise sur le gâteau.
C'est un matériel qui nécessite aussi une longue focale pour ces prises de vue, de manière à ne pas trop déranger l'animal ou la nature.
Oui, la photo animalière, effectivement, les téléobjectifs, c'est très important parce que justement, ça permet, ça parfois, certains photographes oublient un petit peu, c'est dommage, ça permet de rester à distance, tout en ayant une très bonne qualité d'image, aujourd'hui avec du bon matériel. Et pour moi, c'est fait pour ça, et pas vouloir la photo à tout prix et s'approcher à quelques mètres et déranger tout l'écosystème.
Vous disiez donc être quatre photographes qui exposeront tout au long de l'année. J'imagine que vous vous croisez, vous établissez aussi un constat de vos travaux respectifs.
Oui, complètement. On travaille même ensemble pour faire les impressions, pour échanger. Donc on fait des affûts, là, il y en a deux qui sont sur le festival, donc Frédéric Blanc et Thomas Cugnot, qui m'ont invité dans leurs affûts, ce qui est aussi un privilège, hein, parce qu'en général, un affût, c'est quelque chose de très personnel avec un gros travail de préparation. Donc, pour moi, c'est un privilège d'être invité sur l'affût de quelqu'un d'autre. Donc, dès qu'on peut, on fait des choses ensemble, des sorties. Ça va plus loin que la photo, quoi. Là, il y a toute une approche.
Et parfois, ce qui est intéressant dans votre proposition, c'est justement de connaître un peu les cheminements pour aller vers cette nature. Je parle pour des photographes hein, qui voudraient s'initier. C'est un peu le rôle de l'accompagnateur montagne ou de personnes qui accompagnent pour montrer les richesses d'un espace et peut-être aussi d'avertir, d'amener aussi une notion de prévention sur...
Oui, c'est totalement lié, c'est vraiment l'ouverture. Quand on n'est pas du métier, on passe à côté de choses, mais ça c'est vrai dans n'importe quel métier, hein, que ce soit un charpentier, un tourneur sur bois. Quand on n'est pas du métier, on passe à côté de plein de choses. On croit voir les choses, mais on ne comprend pas comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce geste pour faire cette pièce en bois par exemple, par rapport au bois. C'est exactement le même principe. Tous les gens qui participent à ce festival, nous les photographes aussi, on a des échanges qui sont extrêmement riches avec les visiteurs globalement, parce qu'on explique justement ce travail et ce que ça peut apporter. Je faisais régulièrement cette année, j'en ferai pas, des petits ateliers que j'appelais photosensibles. Il n'y avait pratiquement pas de technique, il y en a toujours un petit peu. Mais c'était là aussi, l'objectif, c'était d'ouvrir les yeux. C'est la photo, c'est tellement complexe. Mais même pour le choix du matériel, avant tout, qu'est-ce que je veux faire comme photo ? Combien de gens se précipitent, vont regarder ce qu'ils ont trouvé comme meilleure publicité ou meilleur prix sur des sites photos ou dans un magasin, mais se trompent peut-être sur l'achat de leur matériel par rapport à ce qu'ils veulent en faire. C'est tellement vaste, c'est un univers complet. Donc oui, ces échanges et ces apports et ces approches, ben, n'hésitez pas à poser nous les questions. Ça, c'est vraiment, si vous venez sur place, c'est, pour nous, ça, on adore partager ça.
Moi, j'en ai une. L'usage du sténopé, c'est-il a-t-il été expérimenté pour prendre cette nature dans le temps ?
Là, de tout le groupe qu'on est, on n'a pas travaillé là-dessus encore, mais c'est des choses aussi, il y a pas mal d'idées. On a encore plein de projets, on a plein d'idées, ça ne manque pas. Je pense que bientôt, il faudrait faire deux festivals par an. Ça fuse un peu quand même. Mais non, pour l'instant, on n'est pas encore... Mais non, il y a tellement de possibilités, tellement d'approches, tellement de façons, tellement de vecteurs pour faire passer... pour faire passer ces messages et puis de montrer qu'on a des tellement belles choses autour de chez nous. Parfois, il faut juste s'arrêter, c'est se poser. Ça, c'est vraiment le leitmotiv.
Il y a aussi la vidéo, hein, puisqu'il y aura Bruno Alès qui proposera
absolument.
Donc une approche. En quoi consistera sa contribution, son intervention ?
Lui, il nous met à disposition divers films qu'il a réalisés sur le Vercors, sur le au plateau. Donc là aussi, ça reste dans le même projet. C'est de montrer des choses que tout un chacun n'arrive pas à voir, même quand on randonne avec nos sacs à dos et nos bâtons de marche, ou on avance, ce qui est très très bien aussi. On discute avec nos potes et puis on avance et puis on regarde rapidement. Mais c'est une autre approche. C'est une fois de plus une espèce d'éloge à la lenteur qui est davantage montré avec ces films. Et c'est surtout aussi des prises de vue où il y a un travail de fou avant d'y arriver. Et une fois de plus, en dérangeant le moins possible. Donc c'est des affûts, c'est des choses qui sont mises en place des mois avant de savoir que là, les petits vont sortir. Enfin, c'est vraiment des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir tout seul quand on se lance dans la nature.
Cette nature aussi est botanique également, puisqu'il y aura l'association botanique Envercors qui proposera son expérience son trésor.
Et complètement. Et puis là, la petite anecdote pour montrer que le Vercors, c'est un territoire qui est riche et varié. C'est une association qui vient des quatre montagnes et qui existe depuis très longtemps. Je les avais intégrés dans le tout premier festival. C'était une rencontre un peu un hasard, donc j'avais beaucoup apprécié ce qu'ils faisaient. Donc, je les avais invités pour le premier festival où ils exposaient quelques photos. Et là, je leur ai proposé justement de faire des petites sorties, d'accompagner des groupes. Et à ma grande surprise, mais comme quoi le Vercors, c'est énorme, hein, à ma grande surprise, ils n'avaient jamais fait de sortie botanique en dehors des quatre montagnes. Donc, coup double, ça leur permet à eux de découvrir ce qui se passe de l'autre côté des gorges de la Bourne. Et donc, finalement, ils sont hyper contents. Et puis, ça va être, je pense, encore un bon moment. Et ce sont des vrais passionnés, et des gens qui sont bien, qui sont restés simples et qui savent partager.
Il y aura aussi une céramiste, Betty Vergniaud, qui proposera donc une exposition inspirée de la nature.
Oui. Alors, Betty Vergniaud. Donc là aussi, moi, j'aime bien, dans les expos, mélanger. J'adore la 3D. J'adore la sculpture. J'adore sculpture sur bois, sur pierre, qu'importe. C'était un peu un hasard, c'était aux journées de la céramique, là, au marché des potiers et des céramistes de l'été dernier, où je passais tôt le matin, elle était en train de déballer, il y avait deux ou trois pièces qu'elle avait sorties, et j'ai complètement croqué sur ce qu'elle se fait. Enfin, c'est quelque chose qui m'a parlé, ça m'a vraiment de suite. Et j'ai attendu qu'elle installe, qu'elle termine, parce que c'est jamais facile. Et je suis revenu, j'ai tout de suite proposé si ça l'intéressait, je lui ai expliqué le projet, je lui ai montré les programmes des années précédentes, et puis là, bingo, c'est parti, quoi. Mais c'est franchement, moi, ce qu'elle fait, c'est magnifique. Donc,
c'est une artiste.
C'est une vraie artiste, mais c'est, avec une sensibilité, et puis Là aussi, il faut venir le voir. Ça ne s'explique pas, ça ne se montre pas. Mais en tout cas, oui, un grand coup de cœur pour moi, Betty Vergniaud et toutes ses créations. Il y a également un autre, un Diwa, Romain Hugo, de la rue de l'Armellerie, qui l'an passé a fait une pièce mais magistrale, une libellule, et qui va revenir, surtout que cette année, sur l'affiche du festival, c'est une libellule. Donc, il est tout content de pouvoir ramener la pièce. Il est bien sollicité aussi, heureusement pour lui, et tant mieux. Ça prouve aussi que son travail est d'une grande qualité. Il aurait bien aimé faire davantage de pièces cette année, mais techniquement, ce n'était pas possible pour lui. Mais au moins, il y aura cette libellule. Et franchement, c'est une œuvre incroyable.
Voilà, Hugo, qui est tourneur sur bois à l'Armellier. Hein,
oui, tout à fait.
Et je venais aussi sur Sandrine et Matt Boot, qu'on retrouve notamment pour donc la photographie, mais aussi en tant que conteuse et poétesse.
Oui, naturaliste, conteuse, poétesse. Il y a beaucoup de cordes à son arc, et surtout c'est quelqu'un avec une sensibilité. Ça touche toujours. Ce qu'elle fait, ce qu'elle... Déjà, les photos de Matt, là aussi, ce sont des photos du Vercors, mais dans son univers bien à lui, avec ses techniques bien à lui. Et là aussi, c'est une sensibilité incroyable. C'est des photos qui vous font voyager. C'est pas la... On n'est pas du tout dans la photo naturaliste, qui peut faire peur parfois à certains, parce que bon, des pics noirs, j'en ai vu 10, des bouquetins, j'en ai vu 300, et c'est bon, quoi. Non, c'est un univers complètement différent. C'est un univers à part. Donc,
qu'est-ce qui amène la poésie dans une image ?
C'est déjà celle qu'on y met, nous, hein, celui qui regarde. Il y a des choses qui accrochent, parfois on comprend pourquoi, parfois on ne sait pas pourquoi. Donc c'est la question, elle est intéressante, mais très complexe. C'est des choses qui touchent, c'est des équilibres, c'est des lumières, c'est une vision nouvelle qui surprend. Donc pour moi, c'est beaucoup ça, la photo qui, ou l'image, pas que la photo, l'image qui parle et qui donne un sens à ce qu'on voit.
Alors, la plupart de ces événements, expositions, conférences, auront lieu donc à la Grange Ouverte.
Oui.
C'est à Saint-Martin-en-Vercors.
Un lieu
justement...
Fantastique.
et qui est en quelque sorte en mutation en ce moment.
Oui. Il y a quelques évolutions à apporter. Parce que le monde, il est ce qu'il est. Il avance comme il avance. Et donc, il faut parfois s'adapter à son évolution. Donc ça oblige à quelques travaux, comme on dit, de remise aux normes. Donc là, oui, il y a d'ailleurs un appel à l'aide pour la première fois depuis, je pense, la compagnie La Sirène. Ça doit faire 40 ans qu'ils existent. C'est la première fois qu'ils demandent quelque chose. C'est vraiment des dons pour faire les travaux nécessaires pour se retrouver en conformité avec ce que demandent les autorités.
Il y a un site existant pour cet appel à financement ?
Oui, c'est la Compagnie de la Sirène, vous trouverez, ou la Grange Ouverte, vous tapez la Grange Ouverte, ou la Compagnie de la Sirène, avec CY de mémoire, la Sirène.
C'est un lieu que vous avez toujours connu ?
C'est la première expo qui a été faite là-bas, il y a 4 ans. C'est un lieu où je voulais avant m'arrêter 50 fois et je n'avais jamais l'occasion. Donc là, la porte s'est ouverte pour moi. Michel et Jacotte, c'est des gens extraordinaires. Ils m'ont vraiment accueilli. C'est un lieu sublime en soi. Tout de suite, quand je suis rentré, ce que j'ai dit à Michel, c'est qu'on pourrait exposer n'importe quelle photo vraiment merdique, qui ne ressemble à rien. Elle serait mise en valeur là-dedans. Donc, il y a tellement de choses positives là-dedans. Et franchement, Michel et Jacotte, les propriétaires, ils sont juste adorables.
Alors, vous avez également des soutiens pour que ce festival puisse exister, notamment la librairie Mosaïque.
Voilà, j'allais y venir. Donc ça, c'est aussi une nouveauté cette année. Comme ça grandit, il y a effectivement plus de frais. Jusque-là, c'était de l'autofinancement. Et ça se passait très bien. Là, il y a eu un peu plus de frais. On a eu des offices de tourisme qui m'ont contacté, qui m'ont demandé aussi de faire des programmes imprimés pour qu'ils puissent mieux en parler, parce qu'ils adorent le projet. Donc voilà, tous ces frais-là, c'était plus possible de l'autofinancer. Et j'ai frappé à quelques portes, et là c'est génial. Donc il y a effectivement la librairie Mosaïque de Die, qui m'a... gentiment aussi proposé quelque chose qui est tout nouveau cette année, c'est d'avoir un espace librairie pendant le festival, une petite sélection de bouquins et de magazines pour tous les âges et essentiellement tourné vers corps et nature, bien sûr. Donc merci à la librairie Mosaïque, ça c'est clair.
Vaste sujet, j'imagine, en littérature. Hein.
Oui. La sélection n'a pas été simple, mais bon, avec Christophe, il a fait un super boulot.
Il y a aussi d'autres organisations, telles que Quartier Libre, la Biscuiterie, Vercors Escapade, que l'on reçoit régulièrement pour ses sorties en montagne, et l'hôtel-restaurant du Vercors. Qui est situé, j'imagine, à Saint-Martin également.
Alors, l'hôtel-restaurant du Vercors, oui, c'est devenu un peu notre QG, QG du festival. Là aussi, c'est un hôtel qui a été repris il n'y a pas longtemps, il y a deux ans, je crois, maintenant, deux ou trois ans, et une équipe qui tourne bien, qui est vraiment sympa aussi. Et elle est super bien située par rapport au festival, parce qu'on a une terrasse juste en face de la porte de la grange. Donc souvent les discussions se terminent d'ailleurs sur la terrasse. Donc oui, ils nous soutiennent parce que c'est vrai que ça ramène du monde aussi. Hein, c'est le début de saison un peu, début mai. Et puis ça fait vivre beaucoup de gens. Donc eux, ils sont vraiment partants. Donc ils nous ont bien aidés cette année. L'hôtel Quartier Libre, parce qu'il y a des choses qui se passent chez eux aussi. Donc au col de la machine, comme j'en parlais tout à l'heure avec la sortie de Romain Ribeiro. Donc les gens peuvent aussi faire un petit repas après la sortie. Là aussi, superbe équipe, des jeunes là, qui font un travail de dingue avec une énergie. Enfin, c'était un pari fou pour moi ce qu'ils ont fait, mais c'est vraiment réussi. Parce qu'ils ont repris un hôtel où il y avait, je sais, de mémoire, 5 ou 6 générations, les Favaréons qui donnaient ça. Donc ça avait vraiment une image et puis une clientèle spécifique. Et en fait, ils ont réussi un sacré pari, surtout dans ce lieu là-haut, un peu perdu, qui est magnifique, mais un peu perdu. La Biscuiterie de Villars, oui, parce que la première édition, comme... les amis avec lesquels je comptais exposer n'étaient pas du tout dispo sur la fin. J'étais tombé sur les photos du fils du fondateur de la biscuiterie et je l'ai invité au festival. Et c'est un gamin qui est fantastique aussi, donc voilà. Donc il a bien eu envie d'aider. Et Vercors Escapade, parce qu'on a une petite aventure en commun. Et puis franchement, c'est aussi une petite boîte qui fait rêver beaucoup de gens et qui emmène beaucoup de gens dans des endroits magiques.
Il y aura peut-être, pour participer à ces ateliers, ces sorties, des infos pratiques à conseiller aux visiteurs.
Oui, pour les sorties, donc c'est réservation, inscription obligatoire. Donc sur les programmes imprimés ou sur le site internet, vous avez les numéros de téléphone pour chaque intervenant ou le mien également. Donc, ce qu'on veut, c'est garder aussi quelque chose de qualitatif. Donc, on limite les groupes pour éviter que l'intervenant il fatigue très vite et puis que les gens perdent le fil. Donc, autant faire du qualitatif et puis limiter. Donc, c'est pour ça les inscriptions obligatoires. Des choses qui sont payantes, des choses qui sont gratuites. Donc là aussi, c'est bien spécifié sur le programme. Mais en général, c'est des petits budgets quand même.
Ce sont des sorties qui peuvent durer une journée ou combien de temps ?
Globalement, c'est des demi-journées. C'est 2-3 heures, suivant le cas. Là aussi, on a la chance d'être souple et le fait d'avoir des petits groupes, ça permet d'adapter aussi au moment, au groupe. L'an passé, on avait une sortie, il y avait notre, entre guillemets, invité d'honneur, Ambre de l'Alpe, une super photographe, qui avait proposé une sortie en fin d'après-midi, qui devait durer 2-3 heures, puis ils sont partis, il était 18 heures, ils sont rentrés, il était minuit.
Ouais. Donc, je pensais, parce que la marche, ça creuse, est-ce qu'il y a les pauses casse-croûte, parfois dans cette nature aussi, pour prévoir.
Oui, chacun a à prévoir. C'est comme l'équipement, ça reste quand même la montagne, hein, le Vercors, avec ses petites surprises, même climatiques. Donc, toutes ces sorties, on va éviter d'y aller en tongs.
Oui.
on va partir comme pour une sortie entre amis dans le Vercors, avec ce qu'il faut pour boire, manger, grignoter. Et puis l'équipement de montagne est quand même minimum.
Vercors et Merveilles, donc quand on voit le prospectus avec cette affiche, ce visuel, un côté un peu baroque, c'est une garantie de dépaysement.
C'est ce qu'on espère, justement, donc Vercors, parce que oui, partage sur le Vercors, il y a beaucoup de... On trouve beaucoup de choses, mais sur cet endroit magnifique. Mais le Zémerveille, c'est plusieurs portes, parce qu'effectivement, le Vercors, c'est assez merveilleux, hein, sans chauvinisme. Je suis pas du coin, mais je suis tombé amoureux de la région. C'est un endroit assez merveilleux, et puis des merveilles, il y en a tellement. Donc voilà, avec un petit Z pour le clin d'œil et faire la belle rime un peu plus en longueur. C'est plus doux le Z que le S.
Ce programme est disponible dans les offices de tourisme ou d'autres lieux peut-être ?
Oui, essentiellement offices de tourisme, et sinon sur le site alamdo.com, Zémerveille. Et là, vous avez le programme complet qu'on peut même télécharger aussi, identique à celui qui a été imprimé.
Je mettrai le lien sur la page de l'émission. Eh bien, en tout cas, Hervé Schneider, merci beaucoup d'être venu sur Air du Bois.
Merci.
Pour nous avoir parlé de Vercors et Merveilles. Donc, exposition, sortie, film. On n'a pas trop parlé des films. Hein,
Non, parce que les films tournent en continu.
Oui.
Donc, il y a une sélection. Il y a des films format court, une vingtaine de minutes pour que les gens puissent s'installer tranquillement et puis après en voir un, deux ou trois, comme à leur guise. Ils peuvent revenir, comme c'est en continu. Après, il y a aussi la petite liste qui sera faite sur place, parce qu'il y a encore des surprises de dernière minute. J'attends encore quelques petites choses. J'en ai déjà eu une il y a deux jours, une avant-première qui sera là. Et on fera aussi à la demande. Donc, si on a un petit groupe ou même deux ou trois personnes qui veulent voir tel film disponible, on le mettra. Donc, là, il y a une liberté aussi totale et une souplesse qu'on a envie de garder.
Voilà, tout ça donc du 1er au 10 mai.
Absolument.
Hervé Schneider, je souhaite une bonne soirée.
Merci Hardy Wow et merci à toutes et tous. Et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.